invité des matins du samedi, un écrivain dont on a toujours grand plaisir à lire les livres. On lui doit des perles, de la salle de bain à la tétralogie consacrée à Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, à savoir Faire l'amour, Fuir, La vérité sur Marie et Nu. Il publie en cette rentrée un drôle de roman qui s'amuse à perdre ses lecteurs dans les arcanes de la Commission européenne et de la prospective stratégique avec crypto-monnaie, machine à miner et vol de données informatiques à la clé. D'ailleurs, de clé, il en est question jusque dans le titre qui s'intitule donc ce livre, La clé USB, et qui vient de paraître aux éditions de Minuit. J'ai un immense plaisir à accueillir Jean-Philippe Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ces matins du samedi. Votre livre, La clé USB, est sélectionné dans les livres de la rentrée littéraire par France Culture et l'Obs. Félicitations pour commencer. Alors, la clé USB, eh bien, c'est l'histoire de Jean de Trait. Il est fonctionnaire à la Commission européenne, à Bruxelles, et il est spécialiste de prospective stratégique. D'où ma première question, Jean-Philippe Toussaint. Est-ce que vous vous y connaissez en prospective stratégique?
Alors, je dirais maintenant un peu.
Bien obligé.
Oui, ayant écrit ce livre un peu, mais il y a 3 ans, lorsque je l'ai commencé, 4 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais invité par hasard à Londres, lors d'une rencontre de prospective stratégique pour parler d'un de mes romans. Et j'ai découvert un continent inconnu, fascinant, parce qu'il se trouve que tous ces experts, militaires, politiques, scientifiques, interrogent le futur, l'avenir, travaillent sur l'avenir. Alors ça m'a semblé quand même assez romanesque. Je me suis dit, tiens, l'avenir, voilà un sujet, vaste sujet, mais qui pourrait peut-être donner lieu à un roman et puis mettre en perspective ou en relation l'avenir du monde et l'avenir privé. Et en fait, je dirais que ça peut être une des clés du roman.
Il y en a plusieurs, mais ça peut être une des clés.
C'est-à-dire cette espèce de court-circuit entre les événements du monde et les événements privés.
C'est une réflexion sur le temps, avec un expert de l'avenir comme personnage principal, qui ne fait pas que travailler sur la prospective stratégique, qui a d'autres cordes à son arc. C'est un pro de la blockchain et notamment du Bitcoin. Et je suis obligée de regarder mes notes quand je dis ça, parce que le minage de crypto-monnaies, la cybercriminalité, c'est quand même un domaine extrêmement technique. C'est quelque chose qui vous intéresse, Jean-Philippe Toussaint?
Alors là encore, j'y connaissais rien, mais alors rien de rien. Et en écoutant justement un expert qui travaille à Bruxelles, à la Commission, me parler de quels étaient ces sujets, les sujets sur lesquels il travaillait, il m'a parlé du futur des migrations, du futur de l'alimentation, du futur de l'OTAN. Tout ça, je me disais, bon, déjà que si je situe un roman dans la Commission européenne, il faudrait peut-être que je trouve un sujet qui a quelque chose. Et lorsqu'il m'a parlé des crypto-monnaies, du Bitcoin, mon oreille s'est dressée. Je me dis, tiens, Bitcoin, d'abord j'ai entendu un peu parler, mais c'est quoi exactement ce Bitcoin? Blockchain, je connaissais pas du tout. Et puis, bon, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte que cette blockchain, certains disent que d'ici 20 ans, ça sera omniprésent. C'est comme si je parlais de l'Internet en 1990. Et bon, en même temps, c'est vrai que au départ, je n'y connaissais rien. Je me suis renseigné. Et après, je dirais, peu importe. Je veux dire, le sujet du livre, c'est pas un que sais-je sur la blockchain. Mais en même temps, ça donne une sorte d'arrière-plan, de couleur, qui me semble assez fascinant parce que c'est le monde d'aujourd'hui, et même d'aujourd'hui, un tout petit peu tourné vers demain.
C'est évidemment pas un que sais-je, loin de là, et heureusement d'ailleurs, sur la blockchain ou sur le Bitcoin, mais de temps en temps, vous donnez des pages explicatives pour dire ce que c'est, voilà, il s'agit de ça, pour que quand même le lecteur puisse suivre,
oui, ça
j'imagine, au départ.
Ça m'intéresse un peu comme si c'était une couleur, comme un pain, c'est-à-dire il y a un vocabulaire, il y a par exemple une façon d'utiliser beaucoup d'anglais, des mots compliqués, il y a certaines pages hyper techniques. C'est pas leur contenu qui m'intéresse, c'est leur couleur, c'est leur sonorité.
La langue, presque.
C'est la langue. C'est, pour moi, c'est presque abstrait. C'est, je fais sonner. C'est coloré, je dirais.
L'idée, quand même, Jean-Philippe Toussaint, c'est de s'éloigner de ces explications une fois que vous avez travaillé aussi bien avec des experts que vous avez rencontrés à la Commission européenne que dans les livres que vous avez pu lire ou les articles que vous avez pu lire autour pour vous renseigner. Il faut arriver à oublier ce que vous avez su, j'imagine, pour pouvoir entrer dans le romanesque, parce que c'est quand même la clé USB. Un roman, de bout en bout.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le dis, il y a toute cette documentation, mais elle n'a pas beaucoup d'importance. Après, je me suis amusé. Mais évidemment, l'essentiel n'est pas du tout là. L'essentiel est beaucoup plus dans une sorte de scénario que j'ai inventé. Et comme rarement, je me suis autant aventuré sur un terrain romanesque. pure, où je construis une sorte d'intrigue. Et alors, le point de départ, c'est les interlocuteurs qu'a ce fonctionnaire européen, qui voit dans des hôtels à Bruxelles. Un jour, un de ses interlocuteurs perd une clé USB. Il la perd, ou en tout cas, le narrateur la découvre. Alors, est-ce qu'il l'a laissé tomber intentionnellement? Est-ce qu'il l'a simplement perdue? On ne sait pas. Et à partir de là, le narrateur va ramasser cette clé. Son interlocuteur va l'appeler tout de suite « j'ai pas perdu une clé USB ». Et le narrateur lui dit non. Il dit, je sais pas pourquoi j'ai dit non. Et du coup, d'une certaine façon, j'essaye de mettre le lecteur dans cette situation comme si c'était lui qui l'avait ramassé. Et donc, je commence à créer une sorte de suspense, d'inquiétude. Et à partir de cette première inquiétude, c'est-à-dire normalement, on ramasse pas les clés USB des inconnus et surtout avec qui on est en affaire, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc, il a une sorte de mauvaise conscience, d'inquiétude, d'angoisse, de paranoïa. Et tout ça va se développer. Et pour moi, finalement, c'est une autre façon dont le livre est construit, c'est-à-dire qu'il y a toute cette inquiétude professionnelle ou liée à ses affaires professionnelles. Et dont il va se rendre compte à un moment, et c'est là que le livre va basculer.
Ne dites pas
non,
la
je,
fin.
Hein. Je suis l'auteur. Je suis l'auteur. Je suis prudent. À un moment, le livre bascule entre une inquiétude, je dirais, professionnelle, vers une inquiétude privée.
Et le roman bascule d'ailleurs d'un roman plus, disons, d'espionnage à un roman plus intimiste.
Alors, je disais, en effet, que je crois que je n'avais jamais été autant romancier. Je n'avais jamais autant construit comme une mécanique d'horlogerie un roman. Mais je crois aussi que je n'ai jamais été aussi loin dans l'autobiographie. Parce qu'à partir d'un moment, à partir de ce tournant dans le livre, je suis, je dirais, totalement autobiographique. C'est-à-dire, c'est pour ceux qui connaissent ma vie, peu importe d'ailleurs. Mais voilà, c'est totalement inspiré de ma vie réelle. Je reste dans, le personnage continue à s'appeler Jean Dautré, mais j'aurais pu écrire à la première personne parce que ce sont des choses qui m'ont, alors je reste évidemment dans un domaine de fiction, mais c'est quand même des choses privées qui me sont arrivées et qui m'ont touché, qui m'ont même bouleversé. Et c'est un drôle de mélange puisque d'un côté, on a cette première partie du livre qui est très construite en effet autour d'un polar ou d'un roman d'espionnage, et après on arrive à quelque chose de vraiment autobiographique.
Ce qui fait, Jean-Philippe Toussaint, que votre livre se présente comme un livre qui a un double mouvement, parce qu'il y a un voyage géographique, on voyage, hein. Le héros, Jean Dautré, voyage beaucoup de Bruxelles à Dalian en Chine, en passant par la Bulgarie, le Japon, mais c'est aussi un voyage intérieur.
Absolument, et c'est finalement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est finalement l'aspect privé, l'aspect intime, mais ça me semblait intéressant de le mélanger à quelque chose que je n'avais d'abord jamais traité, qui est, on n'en a pas encore parlé, qui est le cadre de Bruxelles, de la Commission européenne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est lié à ma propre vie, c'est-à-dire que moi, je suis bruxellois, enfin, je suis né à Bruxelles, je vis à Bruxelles, ou je revis à Bruxelles, je fais mes études à Paris, mais il y a eu une grande parenthèse parisienne, mais disons que je suis né à Bruxelles, je suis bruxellois depuis de nouveau 20 ans et Bruxelles n'apparaissait jamais dans mes livres. Et ça, c'est aussi une décision très importante pour moi de situer le roman non seulement à Bruxelles, Bruxelles ma ville, mais Bruxelles, capitale de l'Europe. Et de décider de dire, il faudrait que je parle de l'Union européenne. C'est un sujet, alors c'est pas du tout un sujet facile, confortable et tout ça, mais c'est un sujet passionnant dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que la littérature peut dire quelque chose sur l'Europe? Et je me suis dit, oui, elle peut. Alors il faut trouver l'angle d'attaque. Et en effet, il faut rendre ce sujet passionnant parce qu'il peut être un peu austère à première vue.
Il peut être ardu.
Il peut être ardu, oui. Alors moi, j'ai dans la documentation, c'est vrai que depuis 3 ans, c'était passionnant comme livre pour moi à écrire. Parce que j'ai vraiment appris jusqu'à 4-5 ans, il y avait un côté hermétique. Tout l'aspect communauté européenne de Bruxelles n'existait pas pour moi. Moi, mon quartier, c'est plutôt XL. Et plus loin, j'y allais jamais. Et là, depuis 3-4 ans, avec mon sujet de roman, j'ai visité plusieurs fois le Berlaymont, j'ai visité le Parlement, j'ai commencé à lire toutes ces choses qui sont, il faut bien le dire, très complexes, hein, la façon dont l'Union est dirigée en direction générale, unité, commissaire, etc.
Vous êtes incollable, hein,
maintenant je deviens bon, là, j'ai bien bossé, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, après j'ai essayé aussi de l'oublier. Je n'allais pas non plus faire un que sais-je sur la Commission européenne.
Jean-Philippe Toussaint, il y a aussi une dimension ludique dans ce livre. Il y a de l'humour, de toute façon, dans tous vos livres, il y a de l'humour. Je ne sais pas quelle est la part d'humour ou d'ironie, quel usage vous faites, et même peut-être quelle distinction, quelle nuance vous faites entre l'humour et l'ironie, vous allez nous le dire, mais aussi bien dans les noms des personnages, John Stavropoulos, qu'un autre personnage extrêmement énigmatique, Dragan Kuka. Il y a des scènes visuelles extrêmement drôles. comme celle des toilettes où le narrateur se fait voler son ordinateur. Quelle est la dimension d'humour que vous aviez voulu mettre dans ce livre,
Jean-Philippe Poussin ? Là, je me souviens de la Genèse. En fait, j'ai imaginé cette scène dans, en Corée du Sud, à Busan. J'étais dans le hall de l'hôtel, parce qu'il y avait, le Wi-Fi ne fonctionnait bien que dans le hall de l'hôtel. Et à un moment, je me suis absenté aux toilettes et je me suis dit, il faut que je prenne l'ordinateur avec moi. Donc j'ai pris l'ordinateur avec moi. Et puis à un moment, je me suis retrouvé dans les toilettes avec un ordinateur. Je me suis dit, tiens, voici une situation cocasse. Et je me suis dit, et qu'est-ce qui se passerait si maintenant, je me faisais voler cet ordinateur? Et donc j'ai vraiment expérimenté ça dans ma vie personnelle, en tout cas le fantasme ou l'idée. Et après, voilà, je me suis dit, ben voilà, peut-être une idée romanesque. Parce qu'on peut imaginer un romancier se dit, tiens, il va se faire voler l'ordinateur. Alors, ça peut être dans un train, il y a un mec qui passe, il lui prend l'ordinateur. Mais l'imaginer dans les toilettes, on passe à quelque chose de beaucoup plus vertigineux, de beaucoup plus métaphysique, de beaucoup plus horrifique aussi, d'une certaine façon. Parce que normalement, les toilettes sont un lieu clos où on reste seul avec soi-même. Si d'un coup, il y a une incursion comme ça, terrifiante, d'une main abstraite qui passe sous la porte et qui vole l'ordinateur, je me suis dit, là, il y a une scène romanesque. Et voilà, bon, c'est ce genre de choses. Et je pourrais rajouter un autre moment qui vient juste après. C'est que, juste après, d'abord, il est accablé qu'on lui ait volé son ordinateur, il est fou de rage, mais il va passer sa rage, non pas en allant se plaindre à la réception, il va passer sa rage sur les cintres qui sont dans l'armoire, et ce sont des cintres anti-vol, c'est-à-dire ces cintres anti-vol, et ça aussi, c'est quelque chose, ces cintres anti-vol, ils m'agacent depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je vais dans les hôtels, et c'est des trucs horribles, c'est des moignons, et on peut pas les accrocher, ces cintres. Quand on les décroche, on peut plus, alors, on les sort, on met sa veste, et puis après, on peut plus le raccrocher. Et ça fait 20 ans que ces cintres m'énervent, et j'avais noté ça sur un petit carnet, ou plusieurs fois, et à un moment, je me suis dit, bon, ben, je vais leur faire un sort à ces cintres anti-vol, et je fais 3 pages de fureur contre les cintres anti-vol. Et bon, ça, pour moi, c'est d'une certaine façon, ça, je me régale là-dedans.
C'est-à-dire que le lecteur l'essence. S'amuse à lire et vous régalez à écrire ce genre de scène.
C'est pour moi, c'est l'essence de la littérature, trouver une façon d'exprimer la rage du vol de l'ordinateur, mais de façon totalement détournée. C'est les malheureux cintres anti-vol qui en prennent pour leur grade.
Jean-Philippe Toussaint, vous le disiez, votre héros sent comme une menace planer sur lui. Il vit dans l'angoisse, voire la paranoïa. Il a le pressentiment d'un désastre. C'est écrit plusieurs fois dans le livre, ce qui fait qu'il se méfie de tout, il se sent épié. Et puis le roman bascule dans une atmosphère plus intimiste, plus privée, avec un point commun entre cette partie d'espionnage et la partie, disons, plus intimiste, c'est la figure du père. Le père du héros, il était haut fonctionnaire à la Commission européenne. Mais en même temps, vous disiez, c'est une dimension autobiographique, c'est-à-dire que votre propre père, Yvon Toussaint, qui a disparu en 2013, était auteur de polar. Et donc on a une sorte de mise en abîme entre votre personnage Jean Detrée et vous-même. Est-ce que c'était un clin d'œil, un hommage à la figure de votre père?
Mon père était surtout journaliste et directeur du Soir, le grand journal bruxellois. Il a en effet écrit un roman policier qui a eu le prix du roman policier. Après, il a écrit d'autres romans. Mais en effet, c'est la figure de mon père est très importante pour ce livre-là. Je dirais au début du livre, alors éventuellement à la fin aussi, mais au début du livre parce que le livre est situé à Bruxelles. Et d'une certaine façon, après la mort de mon père en 2013, j'ai senti qu'il fallait que je prenne le relais d'une certaine façon. Et que la façon d'évoquer mon père en personnage romanesque, est évidemment un hommage à mon propre père, mais c'est aussi une façon de prendre le relais et de faire une sorte d'exercice de filiation. Mais ça m'a intéressé de situer vraiment le père du narrateur, le narrateur qui travaille à la Commission européenne, qui a un père qui lui-même travaille, a été commissaire européen, ce qui me permet finalement de compléter cette image très européenne du début du livre.
Et puis vous l'écrivez d'une certaine façon, que vous avez une façon subtile d'amener l'autobiographie, page 178. Je me demandais si l'inquiétude qui ne m'avait pas quitté, ces gens de traits qui parlent, depuis le début de ce voyage, n'avait pas pour cause unique et inconsciente la maladie de mon père. Je me demandais si tout au long de ce voyage, je ne m'étais pas construit des sujets d'inquiétude artificielle pour me détourner de l'anxiété plus foncière, la seule qui importait, que j'éprouvais en raison de la maladie de mon père, pour me cacher en quelque sorte à moi-même la vraie nature de l'angoisse qui m'étreignait. Comme si, finalement, la fin donnait la clé de l'atmosphère générale de votre roman.
Mais là, c'est la clé, c'est le basculement. C'est là qu'on passe de l'inquiétude professionnelle à l'inquiétude privée. Et c'est le narrateur, en effet, s'interroge, il se dit, mais est-ce que je ne me suis pas créé des sujets d'inquiétude artificielle pour cacher cette vraie inquiétude qui m'étreignait et qui est liée à la maladie du père. Donc c'est vrai que là, c'est le tournant. Et c'est totalement imprévisible dans le livre, parce qu'on est là dans des inquiétudes liées à la clé USB, à un trafic éventuel. Et puis d'un coup, il y a l'irruption du privé dans la vie. Et donc, à ce moment-là, toute la vie professionnelle et tous les enjeux de la vie professionnelle n'ont plus aucune importance dès lors que le privé arrive et balaye tout d'une certaine façon.
Et je rappelle ce que vous disiez au début, Jean-Philippe Toussaint, de notre entretien, c'est que votre personnage, votre héros, Jean de Trait, c'est un expert de l'avenir. Or, on a l'impression que finalement, il passe son temps, il cherche à retarder le dernier temps. Il va même jusqu'à envisager une absence, un blanc. Votre roman commence par un blanc. Alors, le blanc dans la page, c'est tout un truc en littérature. Mais là, c'est une absence de 48 heures dans son agenda, ce qui lui permet de s'échapper en Chine. Et c'est comme si vous, auteur, vous accompagnez dans la forme du roman ce report via le détour par le suspense. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a une forme de... On retarde le temps. C'est intéressant du point de vue de la réflexion sur le passé, le présent, l'avenir avec
absolument
votre personnage.
Et là-dessus, c'est-à-dire on part de l'avenir, mais d'un coup, le passé, je ne sais pas s'il a été refoulé, mais il fait irruption. Et c'est ça le grand changement au milieu du livre. On ne s'attend pas du tout à ce que le passé reviennent, alors que justement, c'est même plus que le présent, c'est l'avenir, il travaille sur l'avenir, et d'un coup, un moment, c'est l'enfance, c'est l'intimité, c'est tout son passé qui va revenir. Et ça, ça me semble évidemment aussi très intéressant d'un point de vue romanesque, de cette dialectique avenir-passé au milieu de ce présent.
C'est quoi, Jean-Philippe Toussaint, d'un point de vue littéraire, le temps elliptique qui ouvre le roman ? Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc.
Voilà. Mais alors le blanc, c'est une fascination. Déjà commencer un roman par un blanc, oui. Ça a commencé par un blanc. Déjà, moi, ça me plaît. Il faut dire que j'ai toujours été obsédé par le blanc. Et que cette absence, et puis cette façon dont le narrateur réussit à créer une parenthèse dans sa propre vie, où il arrive à ne plus être joint par personne et où personne au monde sait où il est, me semble être un fantasme encore plus extraordinaire de nos jours, où on est en permanence relié à ses proches, par Messenger, par le téléphone, par le Skype. Et c'est extrêmement difficile de s'abstraire complètement. Et ça, c'est le point de départ du livre, c'est cette parenthèse. Il n'y a aucune raison que pendant 24 heures, personne ne sache où est ce fonctionnaire européen. Il devait partir à Tokyo pour un colloque, et il va ménager dans son emploi du temps 24 heures où absolument personne sait qu'il est en train de visiter une mine de bitcoin à Dalian. Et cette façon, ça reste très simple, c'est-à-dire il a juste changé son billet d'avion, il l'a dit à personne, mais ça devient de nos jours un vrai exploit de ne plus être joignable, de ne plus être repérable. Il essaye d'effacer même les traces numériques, il ne rallume pas son portable quand il arrive en Chine, il veut laisser aucune trace, ce qui devient de plus en plus difficile.
Mais dites-donc, il y a encore une nouveauté dans l'écriture de ce livre-là, qui en compte donc beaucoup pour vous, Jean-Philippe Toussaint, mais qui est liée à ce que vous disiez, notre dépendance à l'égard notamment des téléphones portables. Il paraît que pour ce roman, vous avez dicté des notes sur votre smartphone que vous avez retranscrit ensuite.
Absolument, ça c'est la grosse nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille énormément en marchant. Et jusqu'à très peu, je me promène et j'imaginais mes scènes, je tournais des phrases, tout ça, mais je prenais pas de notes. Et depuis ce roman, à partir de ce roman-là, c'est la première fois, dans la campagne déserte, entourée de vaches corses ou de mouflons, je sors mon téléphone portable et il y a un dictaphone sur ce téléphone. Et donc, je commence à parler tout seul. Les routes sont désertes, il y a quelques animaux qui m'aperçoivent, mais sinon, il n'y a personne. Et je prends des notes. Et après, ces notes-là, elles sont un peu bordéliques, c'est pas très au point. J'arrive, je me les renvoie, et puis, sur l'ordinateur, je travaille, et simplement de les retranscrire, déjà, je commence à mettre des mots dessus. Et là, si je suis bien disposé, je commence éventuellement à faire quelques phrases, mais c'est surtout des notes qui vont me servir ultérieurement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté avec ce roman.
Alors vous, il y a une suspension, un temps qui est un temps mystérieux de 24 ou 48 heures au cours desquelles votre personnage s'échappe. Chez nous, il y a une suspension indispensable de 2 minutes. On vous retrouve dans 2 minutes. Il est 7h30 sur France Culture. On retrouve notre invité ce matin, l'écrivain Jean-Philippe Toussaint, pour son ouvrage qui a paru en cette rentrée littéraire, La clé USB, aux éditions de Minuit. On s'est quitté, Jean-Philippe Toussaint, sur ses références, même à la technologie d'une certaine façon, avec le téléphone portable, et vous évoquiez un livre que vous avez écrit sur la télévision. On pourrait d'ailleurs citer l'autre, qui est un peu plus vieux, il date de 1989, si je ne m'abuse, l'appareil photo. Donc la technique, les objets, ce sont des choses qui vous intéressent. La clé USB est un prétexte texte, on l'a vu dans le premier temps de cet entretien. Mais je voudrais vous demander si, pour vous, le romancier doit être de son temps, c'est-à-dire vivre aussi avec les objets matériels qui l'entourent.
Ben, ça a toujours été pour moi une sorte de consigne secrète que je me donne, c'est de regarder le monde aujourd'hui. Et il me semble que, même quand je lis d'autres auteurs, c'est très important qu'on ait un regard sur notre temps. Et je dirais, on peut bien sûr lire et apprécier formidablement les écrivains du passé, mais en même temps, les écrivains présents ont un avantage, ce sont les seuls qui peuvent porter un regard nouveau. C'est pour ça que la littérature n'est pas terminée. Elle peut terminer parce que, après, à la recherche du temps perdu, il est difficile d'avoir un projet aussi ambitieux, aussi réussi formellement. Mais cela dit, il y a des nouveaux éléments, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles mentalités, il y a des choses qui évoluent. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes derrière qui viennent et qui les observent. Donc pour moi, regarder le monde d'aujourd'hui, c'est ça qui peut apporter quelque chose d'intéressant, je trouve. Alors évidemment, il y a tous le travail sur la forme. Et là, on est sur l'intemporel, aller chercher, je peux lire Dante aussi ou Shakespeare. Mais il m'importe aussi de regarder les objets les plus quotidiens. C'est pour ça que je suis très attentif et c'est pour ça que, n'y connaissant pas grand-chose sur cette blockchain et sur ce Bitcoin, quand j'ai entendu ces mots-là, je me suis dit, tiens, mais de quoi s'agit-il? Et donc, j'ai cette curiosité. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut trouver un usage romanesque à cette blockchain, qui est pourtant pas, c'est un peu aride, mais on peut peut-être trouver un usage romanesque et en tout cas, c'est intéressant de s'y intéresser.
C'est une curiosité pour les objets, c'est une curiosité pour le temps présent, c'est une curiosité pour le monde qui vous entoure. D'où peut-être ces voyages que vous avez entrepris en Asie, en Chine, mais aussi au Japon, et qu'on retrouve dans un certain nombre de vos livres, Fuir, par exemple, Made in China, bien entendu, qui date d'avant la clé USB. Le Japon était aussi présent dans Nu. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, l'Asie, à l'écriture ou à l'écrivain que vous êtes ?
Vous avez raison, c'est le contemporain. C'est-à-dire qu'il me semble, et c'était déjà vrai en 2005, que parler de la Chine, c'est parler du monde contemporain où il est en train de changer, où il est en train de bouger. C'était déjà vrai en 2005, c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui. Lorsqu'on observe la Chine, on a vraiment l'impression que c'est là que le monde est en train d'évoluer, de changer. Moi, j'ai eu la chance de faire une quinzaine de voyages en Chine, j'ai beaucoup connu. Puis en même temps, c'est un espace extrêmement romanesque. Et on a ce mélange en Chine, notamment il y a certaines scènes où le narrateur visite une mine de Bitcoin, enfin un endroit qui est à la fois
dans la clé USB,
qui est à la fois un lieu hyper technologique et en même temps un peu crade, un peu sale, avec des sacs en jute, un chat qui passe, des déchets, des trucs. En Chine, il y a toujours ce mélange entre une hyper technologie et en même temps quelque chose qui vient de la ruralité, qui est encore récente en Chine. Il y a 20 ans, lors de mon premier voyage dans le sud de la Chine, il y avait encore les marchés, il y avait encore les charrettes, des vélos partout. On était encore, évidemment, dans le 20e siècle, mais presque dans le 19e siècle. Et maintenant, quand on retourne en Chine, la plupart des villes sont devenues des technopoles totalement connectées, surveillées. Enfin, le monde, il a évolué à une vitesse énorme. Et donc, je dirais que, comme témoin, si on veut observer le monde contemporain en train de changer, c'est un lieu d'observation idéal, la Chine. Et donc, ça m'intéressait d'être mentalement en Chine pendant que j'écrivais ce livre.
Le monde contemporain, Jean-Philippe Toussaint, c'est aussi le monde actuel, au sens vraiment de l'actualité, du temps présent, celui qui nous entoure de très près. Par exemple, ce qui s'est passé cette semaine, il se trouve que cette semaine s'est mise en place la nouvelle Commission européenne, en tout cas la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la composition de la Commission européenne. Et parmi les membres qu'elle propose, qui doivent être ensuite auditionnés par le Parlement européen, elle a nommé un certain nombre de vice-présidents dotés de missions. Parmi eux, un vice-président doté d'une mission qui est de protéger notre mode de vie européen. Comment recevez-vous une mission dont l'intitulé même est celui-ci ?
C'est une question complexe, je ne suis pas politicien. J'ai entendu en effet que Jean-Claude Juncker s'était opposé. Et évidemment, les groupes écolo, PS, etc. se sont opposés à cette formulation. Même Jean-Claude Juncker, qui fait partie de la même famille politique que Ursula von der Leyen, s'est opposé. Et en effet, on peut dire que c'est sans doute une formulation maladroite. Et que, en tout cas, le verbe protéger, moi, en tant que juste une question de langue, le verbe protéger me dérange un peu.
Et ça, on revient aux questions de langue qui sont quand même la base de votre travail. La langue, en effet. Jean-Philippe Toussaint, merveilleuse langue dans la clé USB. On va se quitter en musique. Et vous avez choisi, on n'est pas très étonné, vous avez choisi un morceau du dernier album du Delano Orchestra. Il se trouve que le Delano Orchestra, vous avez joué avec eux. Vous avez fait un spectacle de MMMM, hein, la tétralogie que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez fait un spectacle de cette tétralogie et le Delano Orchestra jouait avec vous sur scène. On en écoute un extrait. Don't you think it's hard enough to leave our happiness behind us? I'd keep saying that all day long. Don't you think we're strong enough to let some spells away? Un grand merci à vous, Jean-Philippe Toussaint, d'être venu dans les matins du samedi nous parler de La Clé USB, un livre qui fait voyager son héros et qui balade son lecteur entre romans d'espionnage et romans intimistes. Un vrai bonheur de lecture. Merci beaucoup d'être venu et merci pour ce livre.
Merci à vous.